J'ai besoin d'une formation qui me permettrait de développer mon activité, mais ma trésorerie est un peu serrée.
Mais attends, tu es bien comme moi, chef d'entreprise artisanale avec un statut de non-salarié ?
Oui, pourquoi ?
Parce que justement, tu contribues, tu peux demander une aide financière du FAFCEA. Va voir sur leur site fafcea.com ou contacte l'organisation professionnelle représentative de ton métier qui pourra t'aider.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content, content, content.
Pierre Amiche.
Une fois n'est pas coutume, il est heureux le dimanche. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous, elle n'a même pas commencé que la chronique est déjà saccagée. Ce dimanche, je suis un homme heureux. Et ouais, parce qu'hier à 20h, en même temps que Mexique-Argentine, ça démarrait. C'était la 6e session Twitch de Luis Enrique. Alors je vous le dis, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est Twitch, donc Christophe Marc, on s'accroche. Le sélectionneur de l'Espagne nous a régalé une heure de sincérité assez troublante. Par exemple, il passe 15 minutes à expliquer ce que l'Espagne va faire face à l'Allemagne d'un point de vue tactique. Et puis il annonce comme ça qu'il y a de grandes chances qu'il fasse carrément des changements dans son équipe.
Le 11 titulaire pour l'Allemagne sera-t-il le même que celui face au Costa Rica? Il a toujours été difficile pour moi de reconduire le même 11 titulaire. Je ne crois pas l'avoir fait souvent dans ma carrière, y compris dans mes anciens clubs. Et il y aura donc sûrement quelques changements.
Le reste, eh bien, ça va de sa tactique face à l'Allemagne à son film préféré, en passant par l'air conditionné au Qatar, la couleur du short de l'Espagne ou l'importance dans la vie de la méditation. C'est un peu fouillis, c'est un peu dense, mais c'est surtout hyper marrant. Et c'est plein de petits délires, comme par exemple sur son prétendu compte OnlyFans. La première fois qu'il fait un live, il y a un viewer qui lui demande s'il va aussi faire un compte sur le fameux site pornographique OnlyFans. Alors le coach, il comprend pas la vanne et il dit: attendez, OnlyFans, c'est pour lire des livres en ligne, c'est ça? Donc en fait, il se fait expliquer que pas du tout. Deuxième connexion le lendemain, il allume le Twitch et il dit: allez, c'est parti, OnlyFans va devoir attendre. Alors tout le monde se marre. On a du mal à imaginer Didier Deschamps lâcher au contraire, YouPorn va devoir attendre en cours, quoi. C'est un truc qu'on a du mal à imaginer. Autre exemple, vendredi, quand il parle de Ferran Torres, son attaquant, et accessoirement son gendre. Si Ferran Torres marque et le célèbre avec une totote, est-ce que vous le célébrerez? Eh bien, si Ferran Torres marque, on sera très heureux. Mais s'il suce son pouce, il sort immédiatement du terrain, il va en tribune et vous n'êtes pas prêt de le revoir sur un terrain de foot. Il profite de cette heure de liberté plus ou moins totale pour dire ce qu'il pense et régler quelques comptes. Il va crépir les journalistes espagnols. Par exemple, il dit: c'est totalement con de demander à un joueur ce qu'il pense de son entraîneur. Bon, c'est pas fou. Et d'ailleurs, il carre totalement les médias ibériques. Marca est obligé de faire un live en réaction à son live pour commenter en direct. J'ai dit qu'on s'accrochait, Christophe. Là, je vois que t'es en train de regarder comment tu peux faire un compte OnlyFans. Je te connais pas. Et surtout, avec cette manière de se présenter au public, aux fans, il ringardise totalement tous les autres modes de communication. Il se confronte sans trembler aux vrais gens et il donne aux uns sans retirer à l'autre. Il continue à faire des conférences où il dit rien. Dans son attitude, dans cette manière d'assumer qui il est, dans cette façon de laisser penser que c'est le meilleur, moi, il me fait un peu penser à Zlatan. Et il fait tout ça sans vraiment s'angoisser des conséquences et des polémiques qui peuvent arriver. Il dit ce qu'il pense et c'est super. Sur la sexualité de ses joueurs, par exemple.
Pour moi, c'est quelque chose de très normal. Bien sûr, si vous faites une orgie la veille d'un match, c'est évident que c'est pas la meilleure des choses. Mais lorsque les joueurs s'entraînent avec leur club, ils dorment chez eux et je me fiche qu'ils aient des relations sexuelles ou non. Moi, quand j'étais joueur et que nous n'étions pas en rassemblement, dès que je le pouvais avec ma femme, nous faisions ce que nous avions à faire.
Alors j'aime beaucoup ce moment de partage avec les fans et les raisons de cette com en revanche sont un peu plus complexes. C'est que Luis Enrique a eu la douleur de perdre sa petite fille de 9 ans des suites d'un cancer il y a quelques mois. Alors depuis, rien n'est grave, ça n'est que du foot. À la fois merveille de sincérité, contre-feu 2.0, outil de communication totalement assumé, les lives de Luis Enrique sont une belle opération sympathie. Je sais que c'est que de la com, je le sais, mais je m'en fous parce que ça me fait plaisir de voir que ce sont des gens normaux, qu'on peut être sélectionneur sans être totalement intouchable. Et en répondant à des questions débiles ou surprenantes, il en dit plus que 99% des entraîneurs de football. Un sport dont la communication est dominée par la peur, celle de mal dire, de trop dire. On scrute les prises de parole des joueurs comme Mbappé ou Giroud comme si c'était des Nord-Coréens. Un résultat, les conférences de presse sont juste terriblement chiantes. Et Luis Enrique est peut-être le plus beau melon d'Espagne, mais j'adore le melon. Et si jamais le sélectionneur de l'équipe de France veut se lancer, et bien sur RMC, on a Twitch aussi.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cette célébration au live Twitch de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne. Il va falloir répondre à une question quand même, les GG. Vous avez écouté Pierre Amiche ? Est-ce que pour vous c'est génial ? Quand même un peu dangereux. Génial ou dangereux ? Christophe Cessieux.
Je trouve ça génial.
Denis Charvet.
Je suis partagé, dangereux.
Marc Madiot.
Les deux, génial et dangereux, mais je vais m'arrêter sur génial. J'ai déjà fait, moi.
Ok, tu vas nous dire pourquoi.
J'ai fait un OnlyFans.
C'était bien,
bien tenté.
T'as retenu que ça de la chronique.
Je connais bien.
Stéphane Brun.
Génial.
Génial. Jean-Louis Tour.
Un peu des deux, mais plus génial que dangereux.
Ok, sur la même ligne que Marc Madio. Marc, pourquoi génial, mais pourquoi aussi dangereux? Vas-y, tu commences.
Ben, génial parce que j'ai eu l'occasion de tester ce type de communication avec un de mes coureurs, David Gaudu, lors de la présentation d'équipe l'année dernière. Et c'était très intéressant et ça permettait surtout aux coureurs de partir sur d'autres chemins que les éléments de langage qu'on leur donne forcément avant de faire une conférence de presse. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Après, je suis pas d'une génération à l'utiliser tous les jours, mais je dis pourquoi pas.
Tu dis pourquoi pas sur un prochain Tour de France,
ouais,
communiquer via
répondre, voir ça,
voire même.
C'est vrai, et répondre aux questions comme ça des internautes.
Le problème, c'est que ça va poser un souci aux journalistes, c'est-à-dire qu'on va tout dire sur ce type de communication. Et je vois déjà Christophe à côté de moi qui serait outré qu'on ne lui réserve pas.
Et surtout que la com de la FDJ pendant le Tour de France, elle est quand même très minimaliste. Très minimaliste.
Réglez vos comptes maintenant. Vous avez raison, Marc. J'ai juste un. Pourquoi tu dis qu'il y a des éléments de langage en conférence de presse, ça on le sait très bien qu'il y en a.
Ouais,
mais pourquoi il n'y en aurait pas avec les internautes? Parce que le seul filtre, c'est le journaliste.
Ouais,
au milieu. Donc là, il n'y a plus de filtre. Pourquoi il n'y aurait plus d'éléments de langage, tu vois?
Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait une grande liberté d'expression chez Gaudu dans ce type de circonstances qui était totalement parce à l'opposé de ce qui peut être en conférence de presse normale.
Parce que
je pense que c'est la même chose.
Les internautes qui posent des questions à Luis Enrique, machin, ils n'ont pas cette barrière que le journaliste peut avoir en posant des questions qui sont préformatées sur le sport. Les gamins qui ont 18, 20 ans, ils demandent à Luis Enrique des questions qui sortent de l'ordinaire qu'un journaliste n'oserait peut-être pas poser. Est-ce qu'un journaliste oserait poser à Luis Enrique si, quand il était joueur, il mettait des soupapes à sa femme avant les matchs? Je suis pas sûr que...
Tu parles automobile ou...
Automobile. Oui, est-ce qu'il avait des relations sexuelles? Je suis pas sûr que des journalistes osent ce genre de questions, entre les cas gamins. Derrière son écran de 18 ans, il écrit sur son clavier, peut-être qu'il a un pseudo, il a même pas son nom, et après, libre au mec de répondre.
Oui, mais
surtout, il y a un défilé de questions, tu en choisis quelques-unes, tu réponds à ce que tu as envie de répondre.
Oui, mais... oui, parce qu'elle est finalement moins dangereuse, c'est moins dangereux
c'est
de répondre à une question là-dessus,
que oui,
plutôt que le schéma tactique qui va être employé dans le prochain match, qui peut gêner l'entraîneur et qui peut donner des indications aux entraîneurs adverses.
Oui, mais il répond quand même à ça. C'est des questions sur le jeu, il est assez franc, il répond. Alors, il répond
aussi quand il y a un journaliste qui se présente devant lui, tous les entraîneurs ont toujours l'impression que.
Crainte de
se faire avoir, de se faire rouler à Paris.
Jean-Louis Tour et après Denis.
On trouve ça génial parce que c'est Luis Enrique. Et c'est un personnage et c'est un client formidable pour tout type de médias. Ses conférences de presse, elles sont un peu de la même façon. Elles sont très marrantes à Luis Enrique. Il a toujours eu ce franc-parler, mais il a aussi toujours eu cette espèce de défiance avec les journalistes. Et le courant passait pas forcément, même quand il était joueur. Il y a quelques interviews assez célèbres en Espagne. Moi, là où je trouve ça un peu dangereux, c'est si on enlève le filtre, ça a un côté un peu corporatiste, mais si on enlève les journalistes à chaque fois, ça veut dire qu'il n'y aura pas de relance, ça veut dire que si l'entraîneur a envie de vous balader sur Twitch avec sa réponse, il n'y aura pas le journaliste pour dire attendez, là vous ne pouvez pas nous répondre ça parce que vous avez fait tel compo à tel moment, etc. C'est ça aussi le rôle du journaliste, c'est pas que des questions préformatées qui n'apportent rien.
Je vais aller dans ton sens, Jean-Louis. Parce que c'est génial parce que ça nous fait rire, ça nous fait sourire et que voilà, on a envie de sourire, mais. Le danger, c'est effectivement que lui, d'abord, je pense que s'il fait ça, c'est que quelque part, il a pas envie de parler aux journalistes, donc il se met un peu à l'écart. Donc déjà, c'est une prise de position qui, moi, me dérange parce que t'as un rôle à jouer. C'est un métier, je suis désolé.
C'est plus un affront, c'est ça?
Oui, c'est un affront pour moi. Et après, la dangerosité, enfin, le danger, c'est qu'à un moment donné, ton personnage prend le dessus. C'est-à-dire que quand tu joues un personnage, on le voit dans en rugby, ça commence à être le cas, dans les coachs qui prennent de l'importance, qui font leur com, qui ont des gens qui s'occupent de leur com, il y en a plein, et tout d'un coup, tu joues un personnage qui est presque hors sujet, et ça, c'est le danger.
On embrasse Fabien Galthié là ou pas?
Non, pas du tout. Non, je veux dire par là, c'est que à un moment donné, ça te dépasse. Tu peux rentrer dans un rôle qui n'est plus le tien.
Je préfère quand même cette façon de communiquer plutôt qu'une autre manière de communiquer de manière moderne, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, où là, les joueurs ou les entraîneurs livrent leurs états d'âme.
Tu veux dire,
et là, il n'y a pas de confrontation.
Oui,
ils disent ce qu'ils ont envie de dire et évidemment ils disent pas les choses qui peuvent gêner. Là au moins il y a quand même la réponse.
Il y avait
des questions.
Oui, mais la réponse est formatée.
Il y avait déjà eu cette polémique au moment où.
Il y avait déjà eu cette polémique avec Gaël Monfils qui avait fait des live Twitch où il disait posez-moi des questions, je ferai le
journal. Moi je pense que ça c'est très bien si ça n'enlève pas l'exercice d'interview avec un journaliste, après
Jean-Louis, ce que fait Luis Enrique, je sais qu'à la Coupe du Monde, et j'ai cru lire un papier hier, il y a quand même beaucoup d'obligations médiatiques, que ça soit pour les équipes, pour les joueurs. Donc c'est à dire que ça vous prive pas d'avoir Luis Enrique ou d'avoir d'autres sélectionneurs. Donc c'est donc
moi je dis juste qu'il faut pas qu'on tombe dans l'extrême inverse. Et n'oublions pas que c'est parce que c'est Luis Enrique un très bon client. Si Hugo Lloris fait une heure de live Twitch, pas convaincu de rendu.
Ah, je suis pas sûr que Hugo Lloris te raconte ses positions du Kamasutra avant les matchs.
Luis Enrique qui est vraiment branché que là-dessus.
C'est toi.
Attends, c'est drôle. Qui est la caricature de qui? Parce que à chaque fois quand je fais une présentation là-dessus, tu me dis bon, pourquoi tu fais
un personnage? Tu rentres dedans.
Ah ouais. Mais oui.
Là on a un compte d'art.
Et pas que dans le personnage.
Continue.
Il y a pas que dans le personnage.
Luis Enrique qui en conférence de presse il y a quelques temps, je sais pas à quelle occasion c'était, on lui demandait s'il avait des doutes dans sa vie d'entraîneur. Il disait pourquoi je douterais? Je suis le meilleur entraîneur sur terre. Il n'y a pas de meilleur entraîneur que moi dans l'histoire du football mondial. C'est quand même assez génial. Vous imaginez Deschamps répondre ça dans une conférence de presse?
Justement.
Alors évidemment, c'est au troisième.
Mais oui,
c'est chouette.
Marc Madiot.
Moi, je pense qu'il y a deux formes de communication. Il y a une communication officielle qui est formatée et construite à l'avance.
Sous-titre chiante.
Potentiellement. Et à côté de cela, aujourd'hui, enfin moi je le perçois comme ça, on a une nouvelle forme de communication qui est une communication de l'instantané. C'est-à-dire que les mots qu'on va dire, trois minutes après, ils n'existent plus. Donc on est dans quelque chose d'instantané, de consommable.
Il y a des mots qui résonnent, je ne suis pas d'accord avec toi.
Oui, mais...
Une
info efface l'autre. Moi, je le prends comme ça. Et je pense que ce que j'ai vécu à travers Godu, par exemple, ou ce qu'il a continué à faire en d'autres circonstances, est dans ce type-là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, avec un coureur ou un sportif de haut niveau qui fait sa communication de manière traditionnelle et officielle, entre guillemets, et puis on a cet autre côté qui est en train de se développer, en train de se mettre en place à travers ces réseaux sociaux plus différents les uns que les autres, et ça permet aux sportifs de se lâcher sur d'autres sujets et d'avoir une communication autre qui permet aussi de cerner un peu différemment le personnage que peut-être le
sportif. Ça les rend humains, je trouve.
C'est une question d'équilibre.
Il faut
trouver l'équilibre.
Est-ce que ça permet pas aussi de discuter avec un autre public que les lecteurs de base qui lisent les canards ou qui écoutent la radio? Un gamin de 16 ans, peut-être que lui, il a pas envie de lire une conférence de presse formatée.
Mais c'est exactement
il a envie de savoir autre chose.
C'est en ça que je trouve
des questions différentes que celles que les journalistes posent.
Oui. Ça ringardise et ça pourrait ringardiser, pardonnez-moi, les conférences de presse. Mais aussi les sélectionneurs eux-mêmes qui au final sont engoncés dans le costume et sont là à nous raconter des trucs comme s'ils avaient peur de leur ombre. Mais non, mais parfois
les conférences de presse, c'est pas ce que demandent et ce que veulent les journalistes.
C'est ça.
Avant, il y avait pas de conférence de presse. Avant, t'allais interviewer les joueurs, les coureurs dans le vestiaire en one to one.
Maintenant, c'est cérémonial.
Maintenant, c'est tellement formaté que c'est devenu très très chiant.
C'est très chiant.
C'est pas ce que demande la presse. La presse aimerait avoir accès à ces coureurs, à ces joueurs, de manière informelle.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des médias comme nous qui, pour la moindre parole, le moindre mot, font des émissions.
Il y a toujours eu ça.
Je suis d'accord avec toi en partie. Ils ont un peu peur de leur ombre.
Marc, tu préférais pas quand les mecs venaient dans ton hôtel le soir après les étapes?
Après, aujourd'hui, c'est vrai que les communications dans le monde du sport sont aussi contrôlées et maîtrisées.
C'était bon enfant.
Et pardon, mais on en a parlé à 9h30. Si vous voulez aller nous écouter en podcast, Aurélien Tchouaméni, il arrive, il dit ce qu'il pense sur Benzema. Quelqu'un l'a crépi ici derrière? Non, mais justement, c'était bien. Ça, voilà, le mec a dit ce qu'il avait à dire et il s'est servi de la presse pour ça. Et j'ai trouvé ça génial.
Après, à l'époque, il y avait aussi cette connivence en disant si t'étais pote de machin, tu pouvais aller dans le vestiaire et discuter avec lui.
C'est vrai.
Et puis à l'époque, si t'allais dans le vestiaire de Lance Armstrong et tu discutais, il fallait être infirmier aussi.
Elle est facile.
Ça
fait rire,
Jean-Louis.
C'est petit. C'est tout petit.
C'est vrai que le live Twitch avec la perfusion, c'est pas terrible.